sommes le vendredi 10 mai 2024 et il est 17h30 en temps universel. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide en direct de Washington, ravi de vous retrouver pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer dans cette édition. Au Tchad, impressionnant déploiement militaire. Après la victoire contestée à la présidentielle du chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby-Itno.
C'est un peu politique, sinon moi je suis vraiment satisfait.
Pour nous, on croyait que c'est Masra qui sera le vainqueur, mais nous ne sommes pas d'accord avec le résultat d'hier.
Au Niger, report d'une audience menaçant l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. Examen d'un recours sur l'éligibilité de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, tandis que 110 000 personnes ont déjà fui Rafah, d'après l'ONU. L'armée tchadienne a déployé un important dispositif dans certains quartiers de N'Djamena ce vendredi après la proclamation la nuit dernière de la victoire du général Mahamat Idriss Déby-Itno à la présidentielle. Son principal rival, le premier ministre Succé Masra, qui rejette les résultats, a appelé ses partisans à se mobiliser pacifiquement mais fermement. Le point sur place avec notre correspondant André Kodmadjingar.
En plus des malentendus qui a fait deux morts entre les électeurs le 6 mai, le jour même du vote dans Ayamundu dans le sud et un autre à Béché dans le centre, des tirs de réjouissance des partisans du candidat élu ont fait encore des victimes. Ici, dans la capitale, on dénombre 10 morts et une soixantaine de blessés. 8 blessés, dont 4 graves admis à l'hôpital de district de Sar dans le Moïchari. Une femme enceinte a reçu une balle ce matin à Gounougaya dans le Mayo-Kibi Est. Dans la ville de N'Djamena, les forces de défense et de sécurité déployées hier avec un arsenal de guerre sont toujours visibles dans les carrefours, obligeant certains établissements scolaires à fermer leurs portes. 2 candidats malheureux sur 9 ont déjà reconnu la victoire de Mahamat Idriss Déby-Itno. Paimi Padake Albert, arrivé 3e avec un peu plus de 16%, qui a appelé le regagnant pour le féliciter. La seule femme candidate à cette élection, Lydie Biasomda, quant à elle, appelle à l'apaisement et demande aux autres candidats à tourner la page afin de préserver la paix et la stabilité, même s'ils ne sont pas totalement convaincu de l'ensemble des résultats de cette élection. André Kodmadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
La Cour d'État du Niger indique avoir reporté au 7 juin prochain la décision qu'elle devait rendre aujourd'hui concernant la levée de l'immunité du président Mohamed Bazoum, renversée en juillet de l'année dernière par des militaires à la suite d'une demande de ses avocats. John Lyndon.
Fin avril, les avocats de l'ex-président ont demandé à la Cour de reporter l'audience concernant la levée de son immunité au motif que leur client n'a pas été notifié valablement de la procédure en cours et n'a pas pu communiquer librement avec eux. Mi-août, Mohamed Bazoum a été accusé par les autorités militaires au pouvoir de haute trahison et d'atteinte à la sûreté du pays. Le renvoi de l'affaire au 7 juin permettra un débat contradictoire au procès pour que le droit à la défense puisse être pleinement assuré, a déclaré à la presse Maître Kadri Oumarou Sanda, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. Le collectif international des avocats de Mohamed Bazoum prend acte de la décision de la Cour d'État de donner suite à sa demande, a-t-il écrit dans un communiqué. Mohamed Bazoum et son épouse sont détenus depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 dans la résidence présidentielle. Leur fils, Salem Bazoum, a été libéré en janvier.
Également dans l'actualité, 26 migrants partis de Guinée ont péri au large du Sénégal dans le naufrage de leur embarcation il y a quelques jours, rapporte ce vendredi le premier ministre guinéen Amadou Ouriba, évoque les milliers de jeunes guinéens qui attendent dans différents pays d'être rapatriés après avoir tenté de partir. Près de 3000 au Niger, 1200 en Algérie, 400 en Égypte et des milliers dans les camps en Italie, sans compter ceux qui sont aux États-Unis, dont il indique n'avoir pas le nombre. C'est une hémorragie pour notre pays, ajoute le chef du gouvernement guinéen en faisant allusion aux multiples voies empruntées par les migrants. Le journaliste nigérian Daniel Ojogwu a été libéré à Abuja aujourd'hui après avoir été détenu 10 jours pour violation de la loi cybercriminalité, d'après son employeur, la Fondation pour le journalisme d'investigation. Elle affirme que les autorités ont cédé après une manifestation hier devant le quartier général des forces de l'ordre. Depuis le début du mois, des organisations de défense de la liberté de la presse réclamaient la remise en liberté de Daniel Ojogwu, arrêté après son enquête sur le détournement présumé de fonds publics par une ancienne collaboratrice de l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari. La plus haute cour sud-africaine examinait ce vendredi un recours sur l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma à moins de 3 semaines des élections législatives. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
La Cour constitutionnelle a d'abord entendu les arguments de l'avocat de Jacob Zuma qui demandait que des juges se récusent en les accusant de partialité, ce qui a été rejeté par la Cour. Plus d'une centaine de partisans de Jacob Zuma, qui étaient présents lui-même à l'audience, se sont rassemblés devant le tribunal, portant les couleurs du parti MK ou des vêtements traditionnels zoulous. L'affaire découle d'une décision prise en mars par la Commission électorale sud-africaine de disqualifier Zuma au motif que la Constitution interdit à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus d'occuper un siège parlementaire. En 2021, Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour ne pas s'être présenté à une enquête sur la corruption. La Cour constitutionnelle à Johannesburg est appelée à se prononcer après qu'un tribunal électoral a donné raison à Zuma en avril. Sa décision pourrait n'intervenir que la semaine prochaine. L'incarcération de l'ex-chef d'État en 2021 avait déclenché une vague inédite d'émeutes qui ont fait plus de 350 morts.
Au Mozambique, l'armée affronte des djihadistes qui ont attaqué la ville de Macomia, indique ce vendredi le président Philippe Niyusi, évoquant une escalade du conflit dans le nord troublé du pays. L'attaque est décrite comme la plus importante depuis le début de l'année dans la région de Cabo Delgado, riche en gaz. D'après les médias locaux, des centaines de djihadistes ont pris part à l'offensive qui survient alors que le géant français de l'énergie, Total Energy, cherche à faire reprendre le travail sur un projet de gaz naturel liquéfié à 20 milliards de dollars dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une offensive terrestre israélienne sur Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire colossale, a prévenu ce vendredi Antonio Guterres, le patron de l'ONU, au moment où les opérations militaires contre le Hamas palestinien dans cette ville surpeuplée paralysent l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Mohamed Oumfa.
L'armée israélienne a indiqué poursuivre son opération antiterroriste de précision dans certains secteurs de l'est de Rafah et avoir éliminé des cellules terroristes lors des combats rapprochés et de frappes aériennes du côté gazaoui du passage frontalier. Malgré la réouverture mercredi du passage de Kerem Shalom, voisin de Rafah, fermé par Israël pendant 3 jours après des tirs de roquettes revendiqués par le Hamas, l'acheminement de l'aide reste extrêmement difficile, a affirmé Andrea De Domenico, le chef du bureau de l'Agence humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens. Les Israéliens ont des chars partout, des troupes sur le terrain, ils bombardent la zone à l'est de Rafah et ils veulent que nous allions chercher du carburant ou des produits de base dans ces zones de guerre alors qu'ils savent que nous ne pouvons tout simplement pas y aller, a-t-il ajouté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré qu'Israël se battrait seul après la menace lancée par le président américain Joe Biden de cesser certaines livraisons d'armes à son allié en cas d'offensive sur la ville de Rafah. Cette offensive conduirait à une catastrophe humanitaire colossale, a averti Antonio Guterres, ajoutant qu'une famine se profilait dans le territoire palestinien. Nous sommes activement engagés avec toutes les parties concernées pour la reprise de l'entrée des fournitures vitales, y compris le carburant par les points de passage de Rafah et de Kerem Shalom, a-t-il assuré.
La peine de 4 mois de prison prononcée contre Steve Bannon, ancien influent conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, a été confirmée aujourd'hui par la Cour d'appel fédérale de Washington. Il peut encore faire appel de la décision. Steve Bannon, 70 ans, avait été condamné en octobre 2022 à 4 mois de prison pour entrave au pouvoir d'enquête du Congrès en raison de son refus de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Peter Navarro, un autre autre ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, également condamné à 4 mois de prison pour les mêmes faits, purge sa peine depuis mars dernier. Le président chinois Xi Jinping est reparti de Budapest ce vendredi, bouclant sa première tournée européenne depuis 2019, qu'il a également menée en France et en Serbie. À Paris, il a eu des échanges avec le chef de l'État français Emmanuel Macron sur les différents commerciaux ou encore les liens Pékin-Moscou, vus avec suspicion par les Occidentaux sur fond de guerre en Ukraine. À Belgrade et Budapest, pays amis de Pékin restés proches de Moscou, pas l'ombre d'un désaccord en revanche. En Hongrie, Xi Jinping a eu de nombreux entretiens avec le Premier ministre Viktor Orban, un nationaliste habitué des bras de fer avec Bruxelles. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, un permis d'exploration pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome ont été accordés à la Société ivoirienne d'exploration et de recherche dans les départements de Mbato, Toumodi et Tabo. La société luxembourgeoise Parnassa Invest a eu un permis pour le nickel, cobalt, cuivre, argent et or dans le département de Biankouma et Kalissi Ressources peut rechercher le lithium dans les départements d'Egboville et d'Adzopé. Selon l'organisme d'évaluation des réseaux de télécommunications NPERF, le Togo est le pays ayant proposé les meilleures performances Internet en Afrique de l'Ouest. Et grâce aux opérateurs Move et Togocom, le pays affiche la meilleure qualité des débits, du temps de réponse, de la navigation et du stream vidéo. Le ministère de l'économie numérique a félicité le régulateur et les opérateurs. Dans un communiqué, le FMI recommande au gouvernement congolais de garantir la bonne utilisation des fonds qui seront mobilisés grâce à la révision du contrat avec la Chine, minerai contre infrastructure. L'accord signé en 2008 stipulait que deux groupes chinois devaient construire des infrastructures pour 3 milliards de dollars d'ici 2040 en échange d'une participation de 68% dans la SICOMINE.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouindraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
L'AS Douane se relance dans la Basketball Africa League.
Oui, un buzzer beater de Mike Fofana à la dernière seconde a permis au club hôte de la conférence du Sahara de s'imposer 56-54 face au leader de ce groupe, les Rivers Hoopers du Nigeria qui s'incline pour la première fois après 3 victoires en 3 matchs. C'est le deuxième succès pour l'AS Douane du Sénégal en 4 matchs. Mais bien avant, toujours hier, les Tunisiens de l'US Monastir ont décroché leur première victoire dans ce groupe en battant les Rwandais d'APR 83-70. Pas de match aujourd'hui. Les dernières rencontres de cette conférence du Sahara se jouent demain samedi et dimanche. En jeu, 2 tickets et 1 place de meilleur 3e de l'ensemble des 3 conférences qualificatives directes pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Et Yacouba, ici en NBA, Cleveland égalise contre Boston dans les demi-finales de conférence.
Donovan Mitchell a marqué 23 de ses 29 points en seconde période pour aider les Cavaliers à battre les Boston Celtics 118-94. Cleveland porte ainsi le score à 1-1 en demi-finale de la conférence Est. À Oklahoma, Dallas a pu compter sur les 29 points et 10 rebonds de sa star Luka Doncic pour défaire le Thunder 119-110. En demi-finale de la conférence Ouest, Dallas va aborder le match 3 demain samedi à domicile avec un moral regonflé contre le numéro 1 de la saison régulière à l'Ouest. Toujours ici en NBA, les Hornets ont engagé Charles Lee comme entraîneur. Il est présentement le premier adjoint de l'entraîneur des Boston Celtics, Jeff Peterson. L'un des dirigeants des Hornets a précisé que Lee rejoindra son nouveau club une fois son parcours terminé avec les Celtics. Lee, 39 ans, a été entraîneur adjoint en NBA pendant 10 saisons. D'abord à Atlanta de 2014 à 2018, puis à Milwaukee de 2018 à 2023, où il a participé à la conquête du titre par les Bucks en 2021.
La FIFA nie avoir imposé le calendrier du Mondial des clubs.
Dans une lettre adressée à l'Association mondiale des ligues et au Syndicat mondial des joueurs FIFPro, la FIFA dit n'avoir pas imposé le calendrier international. Les ligues et la FIFPro s'opposent à la tenue du Mondial des clubs en 2025 aux dates prévues par la FIFA du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, Les ligues mondiales et la FIFA Pro soutiennent que le calendrier des compétitions était désormais au-delà de la saturation et avaient sommé l'instance de modifier la programmation de la Coupe du Monde des clubs, élargie à 32 équipes. La FIFA invite l'Association mondiale des ligues de football et la FIFA Pro à reprendre le dialogue avec elle.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 10 mai 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Retour au Tchad, où le général Mahamat Idriss Déby Itno a été déclaré hier soir vainqueur de la présidentielle. 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte, mais son premier ministre Succé Masra, qui a été battu, lui conteste cette victoire. À N'Djamena, qui demeure sous une étroite surveillance militaire, les habitants ont repris leur quotidien ce matin après une nuit de célébration pour certains, et de frustration pour d'autres. De la capitale tchadienne, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
Toute crise post-électorale qui se caractérise par la violence ferait de nos enfants innocents qui aspirent à la paix, à la dignité, à l'équité et à l'égalité les premières victimes d'affrontements avec les forces de défense et de sécurité.
Lydie Biasomda, l'une des candidates malheureuses à l'élection présidentielle du 6 mai dernier, arrivée quatrième avec 0,96%, elle demande aux autres candidats malheureux de tourner la page.
Au-delà des résultats proclamés, l'avenir du Tchad reste désormais le seul focus pour tous. C'est pourquoi nous nous inclinons face à la proclamation du candidat président Mahamat Idriss Déby Itno, provisoirement vainqueur, faute de moyens de contrôle et de preuves matérielles de contestation des résultats du 6 mai 2024.
Paimi Padake Albert est le seul candidat malheureux parmi les 9 à appeler le candidat gagnant pour le féliciter. Quelques citoyens interrogés dans la rue de N'Djamena donnent leur point de vue.
C'est regrettable pour les CPI, ça ne vaut pas la peine. C'est les dynastiques, c'est les mêmes problèmes qui vont encore revenir pour plonger les Tchad dans les chaos.
C'est un peu politique, sinon moi je suis vraiment satisfait.
Je ne m'attendais pas à ce résultat qui pourrait nous amener encore vers cet désespoir.
Pour nous, on croyait que c'est Masra qui sera le vainqueur. Mais en fin de compte, on a vu que c'est Mahamat Kakar. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec le résultat d'hier.
Les résultats qui ont été donnés hier ne reflètent pas vraiment la réalité des urnes. Parce que comment on peut comprendre que les gens n'ont pas fini d'acheminer les procès verbaux en N'Djamena et l'ange se permet de donner les résultats des élections de façon plus générale.
Pour se réjouir de cette victoire, les partisans du candidat élu Mahamat Idriss Déby Itno ont tiré en l'air à l'aide d'armes de tout calibre. Dans la nuit, des actions qui ne sont pas sans conséquences. Selon des sources médicales, ces tirs de joie ont fait une dizaine de morts dont les corps sont déposés dans les différentes morgues des formations sanitaires de N'Djamena et plus de 60 blessés. Dame Alliance Ndjekwayom fait partie des blessés. Elle témoigne au micro de VOA Afrique.
On était dehors en train d'écouter le résultat des présidentielles. Puis après, je suis senti le besoin. Je suis allée pour me mettre à l'aise directement. Le cartouche est venu me toucher. Donc je me suis fait blesser au niveau de la fesse comme ça. J'étais à l'hôpital, quand on a fait la radio, ils ont dit que bon, le bal était sorti, mais il y a la blessure. Ils m'ont donné les ordonnances pour payer les médicaments. Je sens très mal, la douleur, ça persiste.
Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 5 juin pour proclamer les résultats définitifs. Reste à savoir si le Conseil constitutionnel va suivre les pas de Ange qui a rendu son verdict avant la date prévue. La ville de N'Djamena est toujours quadrillée ce vendredi. Les forces de défense et de sécurité déployées hier sont toujours visibles dans les carrefours, obligeant certains établissements scolaires à libérer les enfants. Enfin, ce matin, André Kodumadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
À peine à son second et dernier mandat entamé, le président de la République démocratique du Congo a fait état lors de sa récente tournée européenne de la mise en place d'une commission chargée de réfléchir à la rédaction d'une nouvelle constitution. Le débat n'a pas tardé à faire rage. L'opposition et la société civile qui craignent le spectre du troisième mandat sont vent debout, alors même qu'environ 5 mois après la réélection de Félix Tshisekedi et plus d'un mois après la nomination d'une première ministre, le nouveau gouvernement se fait attendre sur fond de graves crises sécuritaires dans la région orientale. Pour un décryptage, Antoine Roger Bolamba a joint le professeur Bob Kabamba de l'Université de Liège. Il est l'un des rédacteurs de l'actuelle loi fondamentale de la RDC.
Cette question de la révision de la Constitution revient d'actualité, généralement lorsque l'on arrive à un deuxième mandat et dernier mandat. Pourquoi on parle de la révision? Parce que tout simplement, à ce moment-là, nous savons très bien que la Constitution actuelle telle qu'elle est, elle a été publiée, elle consacre 2 mandats, pas plus. Or, dans la tradition africaine, généralement, quand on est président, on veut toujours rester au pouvoir. Alors, pour rester au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la Constitution.
Professeur, on est en train de dire que la Constitution actuelle retarderait la formation même du gouvernement souminois. Est-ce vrai?
Non, ce n'est pas vrai parce que tout simplement, cette Constitution, elle est très claire. Alors, elle donne la possibilité au chef de l'État de pouvoir, entre guillemets, mettre en place des institutions. C'est-à-dire que dans un premier temps, après les élections, qu'est-ce que la Constitution prévoit? Que l'on puisse avoir un informateur, si c'est possible, si c'est indispensable, pour aller vérifier si on peut avoir une majorité. Or, lorsqu'on regarde ces élections telles qu'elles se sont passées en décembre de l'année passée, c'est qu'on voit clairement, sans ambiguïté, puisque la majorité présidentielle se sont regroupées dans une espèce de plateforme qui s'appelle Union Sacrée, et cette Union Sacrée de la Nation compte à elle seule pratiquement la majorité des députés, c'est-à-dire presque l'unanimité, puisque l'opposition n'a qu'une vingtaine donc de sièges. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle une majorité unanime. Donc il n'y a même pas à discussion, même pas à essayer de savoir s'il y a majorité ou pas, puisqu'elle est là, manifeste. Alors, pourquoi est-ce que ça traîne? Ça ne traîne pas à cause de la Constitution. Mais ça traîne pour la bonne et simple raison que, vu le nombre du volume des partisans de Félix Tshisekedi, les places étant limitées, et tout le monde veut occuper ces places-là, donc il y a embouteillage sur les différentes possibilités de pouvoir avoir des sièges, soit à l'exécutif, soit, par exemple, au bureau de l'Assemblée nationale, voire aussi du Sénat. Alors, cet arbitrage entre tous ces égos et toutes ces ambitions prennent du temps et le président trouve l'échappatoire en disant, ben oui, c'est la faute de la Constitution, alors que la Constitution n'y est pour rien.
Bob Kabamba, politologue d'origine congolaise, était en ligne de la ville de Liège, en Belgique.
Lubumbashi en RDC, sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Rwanda compte aujourd'hui plus de 12 000 anciens combattants qui ont quitté le groupe rebelle armé FDLR en République démocratique du Congo. Ces hommes indiquent qu'ils tentent de se réintégrer dans la société malgré plusieurs années loin de leur famille. Jean Damasène Manishimwe, notre correspondant à Kigali, est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Voici son reportage.
Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe FDLR qui combat le gouvernement rwandais depuis l'est de la République démocratique du Congo. 12 ans après avoir regagné son pays, il est loin d'oublier les difficultés rencontrées en exil.
Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR. J'ai dirigé un bataillon et après j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli.
Rentrer au Rwanda depuis les forêts de la République démocratique du Congo est une décision hasardeuse et beaucoup décident de rentrer au risque de leur vie, comme le dit Vestine Wizeimana, épouse d'un ancien combattant FDLR.
Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'avais très peur. J'ai craigné beaucoup pour ma vie. Mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassuré.
Après une formation de 3 mois, les ex-combattants regagnent la vie civile. Et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver l'emploi comme agent de l'État.
L'État a continué à me soutenir. J'ai été envoyé en mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique comme policier onusien. J'ai passé une année et demie, ce qui a amélioré ma situation économique. J'ai envoyé mon fils étudier à l'étranger. Il termine sa licence en Chine.
Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires. Après les suspicions du début, leur cohabitation devient finalement harmonieuse. Lorient Tuichimire travaille avec un ancien combattant FDLR.
J'ai commencé ce travail en 2018. Nous cohabitons bien. Il m'a aidé à éviter le chômage. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille.
La présidente de la commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, Valérie Nyirahabineza, estime que la réintégration des ex-combattants était un long processus.
Lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. Et la première des choses qu'on fait après la stabilisation, c'est de leur donner des soins médicaux. Après les séances de trauma counseling, nous leur donnons alors des cours. Les cours d'éducation civique. Ceux-là qui viennent des forêts de la République démocratique du Congo et donc qui passent entre les mains de la Commission nationale de démobilisation, ils ont le droit de choisir où aller s'installer.
La Commission rwandaise de démobilisation dénombre à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo. Jean Damasen Manichimé pour VOA Afrique, Kigali.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les cérémonies de remise des diplômes sont réduites ou annulées dans les universités américaines en raison des problèmes de sécurité liés aux protestations d'étudiants pro-palestiniens. Si certaines manifestations sur les campus ont abouti à des concessions, d'autres ont donné lieu à de violents affrontements. De New York, Tina Trin fait le point. Le récit est de Dilidico.
La fin de l'année scolaire est décevante. Après que des manifestations d'étudiants contre la guerre à Gaza ont donné lieu à de violents affrontements avec la police, l'Université Columbia à New York a annulé sa grande cérémonie de remise des diplômes, préférant organiser des célébrations plus modestes dans différents départements du campus. Alexis Ismaël est en dernière année au Barnard College, une école affiliée à Columbia.
Je pense que nous avons tous vécu des semaines très difficiles et voir que cela se termine de cette façon, je veux dire que si l'on regarde dans l'ensemble, nous avons commencé à étudier en ligne en première année d'université. Du coup, dans l'ensemble, c'est vraiment difficile de finir de cette façon.
Certains critiquent Columbia pour avoir pris cette décision après avoir fait déguerpir le campement de protestataires. Oliver McCoy est étudiant à Columbia.
L'université a indiqué que de nombreux courriels adressés aux étudiants et au reste de la communauté universitaire, que l'installation du campement ainsi que toutes les actions menées par les manifestants étaient la raison pour laquelle elle a menacé d'annuler la cérémonie de remise des diplômes. Mais le campement a été libéré depuis un bon moment déjà.
Alors que les manifestations pro-palestiniennes ont déferlé sur les campus américains, certaines universités se sont empressées de mettre à jour leur politique en matière de liberté d'expression et de manifestation. Zach Greenberg est avocat à la Fondation pour les droits individuels et l'expression.
Je pense qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour les universités qui n'ont peut-être pas eu à faire appliquer leur politique face aux protestations à un degré similaire à celui de ces deux derniers mois.
D'autres administrations d'universités américaines ont accepté de négocier avec les étudiants. À l'université Rutgers, l'établissement a accepté de créer un centre culturel arabe ainsi que d'autres concessions en échange du démantèlement volontaire du campement installé par les manifestants. Écoutons à nouveau Zach.
Il s'agit manifestement d'une question politique brûlante et je pense que les étudiants veulent simplement être entendus. C'est donc une excellente idée de leur donner une place autour de la table, de leur permettre d'avoir leur mot à dire sur ce qui va se passer.
De nombreux étudiants ont demandé que les universités se désengagent des entreprises israéliennes dont les intérêts sont liés à la guerre à Gaza. La tâche n'est pas facile, selon les experts. Marie Papajane est vice-présidente exécutive de l'Association des conseils d'administration des universités et collèges.
Le désinvestissement devient plus compliqué, simplement en raison de la manière dont les fonds sont investis. Il s'étend même jusqu'à Apple et Google qui ont des activités dans cette partie du Moyen-Orient. Je pense que 90% des entreprises du SEP sont impliquées d'une manière ou d'une autre. Alors comment faire la part des choses ?
Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 10 mai 2024, prend fin ici. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi.